Bonjour, chers amis. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage, au micro Sarah Brébard. Et à mes côtés, des invités qui sont également partie prenante au procès à Sabil que nous venons de gagner. Et à cet égard, je voudrais tout de même, vous savez que nous avons l'habitude, chaque fois que nous commençons cette émission, de rendre hommage à une personnalité pour son courage moral ou intellectuel. Cette fois-ci, nous voudrions rendre hommage, en fait, à la justice belge, en la personne de Madame la juge Anne-Françoise de la Mine de Beek, si je prononce bien. Et je crois que François Sanangelo du Centre pour l'égalité des chances, qui est à mes côtés, partage cet hommage. N'est-ce pas, François ?
Bien sûr, absolument.
Et donc, qui a rendu un jugement courageux, un jugement tout à fait digne. Voilà, je pense que c'est à l'honneur de notre pays, la Belgique, et à l'honneur de notre justice qu'un tel jugement puisse être rendu et appliqué. Alors, on peut aussi saluer le réquisiteur du procureur du roi, Patrick Carodi, au cours des audiences. Voilà, alors le jugement a donné lieu en fait à la condamnation suivante, les prévenus Ayachi et Gendron, Ayachi étant, je le rappelle, le fils de Cheikh Bassam, qui est le responsable fondateur du centre islamique belge, le fameux centre par lequel sont passés les assassins de Massoud, pour aller s'engager dans les camps d'entraînement de Ben Laden en Afghanistan et puis envoyé comme journaliste et caméraman pour liquider Massoud. Donc ces assassins de Massoud sont passés par le centre islamique belge. Marie-Rose Armesto, la grande journaliste RTL, avait d'ailleurs découvert en fait cette filière et révélé à l'opinion publique ce qui se tramait dans les locaux de ce centre islamique, qui a par la suite d'ailleurs été perquisitionné, provisoirement fermé, et qui aujourd'hui en tout cas vivote. Khalil Zengedi à mes côtés voudra me confirmer qu'est-ce qu'il en est du centre islamique belge pour le moment.
Tout à fait, c'est... le centre islamique s'est rendu compte de la grande pression qui s'exerçait sur lui de la part et de la justice et des services de
police,
de renseignement, etc. ici en Belgique. Et donc il s'est scindé en deux branches. Une branche plutôt politique qui est dirigée par Bastin et consorts. Je vous le rappelais, ils ont fait quand même 8500 voix au dernier régional, ce qui n'est pas rien. Et puis la branche dure qui, elle, s'occupe de l'endoctrinement, du recrutement et de l'envoi des personnes qui sont vraiment conditionnées pour aller là où il y a des conflits, se faire exploser. Voilà, donc ça c'est la manière dont ils pratiquent actuellement.
Mais actuellement, ils sont assez peu soutenus par la communauté musulmane. Hein. Je pense qu'il y a très peu de monde qui fréquente encore ce centre.
Mais ils n'ont jamais été vraiment soutenus par la communauté musulmane qui vit en Belgique, mais ils ont beaucoup surfé sur les mécontentements, sur les problèmes d'une certaine jeunesse qui est exposée à la discrimination. Et là, François Santangelo, c'est quelque chose pour le syndicat du sens. La discrimination à l'emploi, le logement, l'exclusion sociale, le racisme, etc. Ils ont beaucoup surfé sur l'affaire du voile également. Et à un moment donné, ça a donné quand même un certain nombre d'acquis pour cette nébuleuse. Aujourd'hui, ils marquent un net recul par rapport à leur propagande.
François Sanangelo, vous
voulez ajouter ? Oui, je veux simplement préciser que la branche politique a annoncé qu'elle allait déposer des listes pour les communales du 8 octobre. Donc là, on verra un petit peu quelle sera l'ampleur. Oui, le groupe de Bastin.
Bon, on ne va pas aborder, disons, en détail, évidemment, cette problématique. C'est juste pour situer pour nos auditeurs qui a été condamné à travers ce procès. Ce sont donc, en fait, les gestionnaires du site islamique, du site internet
islamiste.
Islamiste, oui, c'est bien ce que je dis. Donc, ce sont les gestionnaires du site internet islamiste du centre islamique belge, Voilà, alors le jugement leur donne 10 mois de prison, dont la moitié avec sursis, ce qui veut dire qu'en fait ils sont condamnés à 5 mois de prison ferme, mais en fait ils ne les feront pas parce qu'en Belgique, moins de 6 mois, les peines ne sont pas exécutées étant donné que nos prisons sont remplies. Mais enfin voilà, pour le principe, ils ont quand même une condamnation et un casier judiciaire. Il a d'ailleurs été tenu compte du fait qu'il n'avait jamais eu d'antécédent judiciaire pour leur infliger une peine, somme toute, on ne va pas dire modérée, parce que c'est quand même une peine assez importante, mais en tout cas pour avoir le sursis pour la moitié de la peine. Ils ont également été condamnés à payer une amende de 15 000 euros au Centre pour l'égalité des chances, à la justice, et à 2 500 euros au Centre pour l'égalité des chances. Les membres du collectif Dialogue et Partage ainsi que les parties civiles libres ont reçu 1 euro. Voilà. Alors ça, je voudrais... on va faire un tour de table à propos de ce, disons, une vue d'ensemble pour que du sentiment de chacun des invités ici présents. Alors avec nous, vous avez déjà entendu évidemment Rally Zengedi qui anime le plus souvent cette émission à nos côtés, mais également François Sanangelo, bonjour François.
Bonjour, les auditeurs aussi.
Du Centre pour l'égalité des chances. Et je voudrais aussi saluer François Sanangelo parce que François Sanangelo a été peut-être un des premiers à être sensible à la douleur que les Juifs éprouvaient, parce qu'une chose qu'on doit préciser, c'est qu'au moment où le site islamiste a été créé en 2002, ont commencé également les attentats et agressions, enfin les agressions antisémites, les attentats contre plusieurs synagogues. Et donc, on sait très bien que quand on est dans un bain idéologique qui vous incite à la haine, le passage à l'acte n'est pas loin. Et donc, évidemment, ce contexte qui permet une parole libre de haine sur Internet a favorisé les actes et les agressions dont les Juifs ont été victimes. Et François a été un des premiers à être sensible à cette parole. Donc, je voudrais remercier, et je pense que toute la communauté est à mes côtés pour exprimer sa reconnaissance à François Sanangelo. Alors, Sylvie Rosenfeld, vous avez une formation de juriste et vous avez été également, vous êtes constituée partie civile dans ce procès et vous avez eu l'occasion d'assister à deux audiences. Que vous inspire, quelle est l'impression générale que vous inspire ce jugement ?
Ah, le jugement me satisfait tout à fait. Je trouve que c'est un magnifique jugement, on y reviendra. Et je trouve que le juge a tenu compte de tout ce qu'on pouvait ressentir. Il a tenu compte elle ne s'est pas laissée embringuer dans là où les prévenus et leur avocat, là, avec ces terribles conclusions, voulaient l'emmener. Elle a été formidable, cette juge. Alors c'est vrai que ça nous aurait fait plaisir qu'on publie tout ça partout, mais bon, elle n'a pas jugé nécessaire de publier le jugement rendu, et quelque part, finalement, je pense que c'est bien. Comme ça, ça ne fera pas d'histoire, mais nous, on a un jugement, et il n'y aura pas des réactions partout pour dire les sionistes, on gagnera, tous ces machins que je n'ai pas envie d'entendre. L'important pour moi, c'est que ces gens sachent qu'ils peuvent être poursuivis et que c'est grave. 10 mois de prison, même... avait relevé qu'il n'avait pas de casier, et ben c'est grave.
Voilà, alors à nos côtés également, Maître Fels et Maître Gossens qui ont été nos brillants défenseurs dans cette affaire, salués d'ailleurs par tous les confrères juristes ou avocats qui étaient présents, qui ont été présents au cours des différentes audiences. Maître Fels, une première impression.
Pour ma part, je suis extrêmement satisfaite de ce jugement parce que je crois que c'est un très très bon jugement sur deux plans. D'abord, au niveau de la peine, c'est une peine qui est extrêmement sévère pour ce genre de délit. Il faut le dire, on peut avoir tendance à penser que 10 mois, dont 5 fermes qui ne seront pas exécutées, n'était pas terrible. Au regard des infractions qui sont de manière générale condamnées par le tribunal correctionnel, c'est une peine qui est extrêmement sévère. 10 mois de prison alors que le maximum prévu par la loi pour ce genre d'infraction, c'est 1 an. 10 mois, c'est beaucoup. Il est habituel d'accorder un sursis quand c'est la première condamnation, donc c'est pour ça que ça a été fait. Il n'y a pas de raison de faire une exception à la règle. Et l'amende est également extrêmement, extrêmement élevée. Donc ça, c'est au niveau de la peine. Au niveau du contenu du jugement, je crois qu'il faut effectivement saluer Madame Delamine de Bex qui a rendu ce jugement, qui a un très long jugement, à mon avis, on n'a pas encore vu, mais il doit faire entre 15 et 20 pages, ce qui est aussi très rare en matière correctionnelle d'avoir un jugement qui est à ce point long et à ce point motivé. Elle a effectivement pris la peine de répondre à chacun des arguments qui avaient été soulevés par la défense. Elle y a répondu, je crois, avec beaucoup de pertinence. Et même si on espère tous que la justice soit la la meilleure et soit rendue de la meilleure façon en Belgique. Je crois qu'il faut saluer le courage qu'elle a eu en rendant ce jugement. Elle a suivi notre argumentation sur absolument tous les points, en ce compris la loi de 95 dans le négationnisme, sur laquelle on reviendra bien entendu. Et donc je crois que c'est un jugement qui est absolument parfait.
Maître Gossens, est-ce que vous pouvez aussi d'abord donner votre impression et aussi peut-être expliquer ce qu'on n'a pas obtenu, parce qu'on l'a abordé, Sylvie Rosenfeld l'a abordé, mais enfin on n'a pas expliqué à nos auditeurs que nous avions demandé certaines choses, et bon, plus secondaires on va dire. Alors,
oui,
première impression d'abord.
Bonjour. Moi, je suis également extrêmement satisfait de ce jugement. Je trouve que Mme de la Mine de Beek a fait preuve de beaucoup d'intelligence dans cette affaire et de beaucoup de courage. Elle a réussi à bien expliquer chacun des problèmes qui sont posés et à y donner des réponses que je trouve extrêmement pertinentes et convaincantes. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Il faut effectivement saluer le travail de la justice dans cette affaire. Et il faut saluer ce courage, je dirais, à double niveau. Il y a le jugement lui-même, mais il faut aussi se rendre compte, et ça, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais ce procès a été dans les faits un procès tout à fait hors du commun. D'abord, par le nombre d'audiences qui ont été consacrées. Moi, je n'avais jamais vu un procès correctionnel, hormis dans des affaires gravissimes, mais dans des affaires, somme toute, où les peines ne dépassent pas des sommets, j'avais jamais vu un procès correctionnel se dérouler en autant d'audiences. Donc le juge a vraiment pris le temps d'écouter chacune des parties et d'écouter vraiment et de comprendre vraiment les arguments dans le détail. Deuxième aspect tout à fait extraordinaire de ce procès, c'est le fait que on a assisté à toutes sortes d'incidents déontologiques qui ont retardé le jugement de l'affaire et qui étaient tout à fait extraordinaires. Et dans toutes ces circonstances, j'ai personnellement admiré la sérénité avec laquelle Mme de la Mine de Beek a géré toutes les difficultés qui se posaient devant elle. Je crois vraiment qu'il faut saluer la justice.
Eh bien voilà, c'est ce que nous avons fait. C'est pour ça qu'évidemment, nous lui avons donné le certificat d'honneur de cette émission. Khalil Zengeli, vous voulez ajouter quelque chose à cette information?
Je voulais plutôt parler en tant que personne issue d'une communauté qui est la communauté arabe musulmane de Belgique, et je voulais un peu donner mon sentiment, pas par rapport au procès, parce que là je laisse bien sûr la place à ceux qui sont assez, à ceux qui sont habitués au prétoire, mais en tout cas mon sentiment par rapport à toute cette affaire. Et je voudrais dire que il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé dans ce procès-là. C'est que premièrement, bien qu'il prétende parler au nom des musulmans, eh bien Cheikh Bassam et son petit groupe ne parlent pas au nom des musulmans et ne représentent pas les musulmans. Les musulmans de Belgique sont des gens qui, dans leur immense majorité, veulent vivre en paix, veulent vivre dans la convivialité, dans le dialogue. Dialogue et partage a expérimenté le dialogue avec les musulmans. Nous l'avons fait au Botanique, nous l'avons fait sur des radios arabes, nous l'avons fait à de nombreuses reprises, et on sait que ça se passe sur le terrain, à Forêt par exemple, autour de M. Dombe, autour aussi à Scarbeck, autour de la synagogue, de la place Pavillon, avec les mosquées avoisinantes, Saint-Gilles, Anderlecht, etc. Donc il y a un dialogue qui est en place. Et donc ceux qui viennent aujourd'hui pour saper ce dialogue, eh bien ils ne parlent pas au nom des musulmans de Belgique. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé dans les arguments de Cheikh Bassam et de son groupe, c'est que les musulmans doivent le savoir. Ils instrumentalisent le Coran.
On y viendra, Khalil Zengeli, une seconde, hein, parce qu'on ne va pas anticiper sur les différents points que nous voulons aborder. Et avant, je voulais faire un petit aperçu. En fait, au cours des audiences, effectivement, comme vient de le souligner Maître Gossens, la juge a pris le temps de consacrer plusieurs audiences à cette affaire, et en particulier les gesticulations, vociférations de Maître Courtois ne lui ont pas simplifié la tâche. Il avait exigé, par exemple, 6 heures de plaidoirie. Maître Gossens, vous vouliez dire?
Oui, il faudrait peut-être dire à nos auditeurs ce qui est Maître Courtois.
Ah oui, alors, Maître Courtois, c'est évidemment l'avocat de ces islamistes qui a tenu, à travers ses conclusions, des propos tout à fait tout à fait odieux, écœurant, enfin des propos, vous approuvez, je pense, François Tanangelo.
Oui, vraiment une surenchère, il était vraiment insultant, à la limite même négationniste, puis il a commencé à chiffres, carrément mettre en doute.
Dans ses conclusions, il considère qu'il y a un lobby juif dans les médias belges. Bon, il a trouvé qu'un nom à citer, enfin, assez curieusement, on ne peut pas dire que les juifs sont pléthores dans les médias belges, et ni qu'ils constituent un véritable lobby. Mais enfin, on peut remarquer aussi qu'il a adopté en fait une stratégie de rupture. Hein, sa méthode consistait surtout, non pas à défendre ses clients, mais à attaquer l'accusation et à essayer d'enfoncer évidemment les arguments qui mettaient ses clients mal à l'aise. Mais je pense qu'au cours des audiences, les choses se sont progressivement éclairées et nos avocats ont, par leur plaidoirie, convaincu la juge que nous avions tout à fait raison, le Centre pour l'égalité des chances et nous, Collectif du Dialogue et Partage, ainsi que les parties civiles indépendantes, d'intenter ce procès. Alors en fait, le jugement, donc comme nous vous l'avons dit, est très long et nous n'en avons pas encore la copie, mais en fait, il aborde trois arguments de procédure et il se prononce notamment aussi sur trois questions de fond. Les trois questions de fond, c'est d'abord une vidéo qui en fait compare David Lévy à Hitler, une gesticulation de David Lévy et comparée à la manière dont Hitler lui-même gesticule pendant ses discours. Ensuite, un article intitulé « La fin du peuple d'Israël » où les juifs sont traités de transgresseurs, médiocres, singes, porcs, enfin, et j'en passe. Fin du peuple d'Israël, le peuple d'Israël étant à entendre ici comme évidemment le peuple des enfants d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif au sens biblique. Et la troisième question était consacrée aux propos antisémites tenus sur le forum. Alors, d'abord, pour ce qui est des arguments de procédure, l'accusation avait plaidé l'incompétence du tribunal en contestant le fait que ce tribunal correctionnel pouvait se prononcer sur des délits qu'elle déclarait. La défense, être des délits de presse et relevant donc de la cour d'assises. Alors c'est vrai qu'évidemment tous les délits de presse relèvent de la cour d'assises, sauf ceux qui sont inspirés par le racisme et la xénophobie. Maître Feld.
Oui, effectivement. En fait, une petite précision peut-être avant de commencer. On parle dans ce dossier de deux lois. Il y a deux lois qui étaient visées par la citation. C'est la loi de 1981. Donc la loi qui condamne tout acte de racisme, en résumé, et la loi de 1995 qui sanctionne tout acte de négationnisme. Et comme vous le savez peut-être, la justice pénale se fait à trois niveaux, au niveau du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises. La cour d'assises qui connaît des crimes les plus importants, mais exceptionnellement, elle peut connaître des délits politiques et des délits de presse. Et donc, tout ce qui était délit de presse, donc ce à quoi nous avions à faire face dans ce dossier, était susceptible d'être plaidé devant une cour d'assises. Une cour d'assises, ça veut dire quoi? Évidemment, ça veut dire un jury. Et donc, une décision qui est prise par 12 personnes qui ne connaissent finalement pas grand-chose au droit. Et en 1999, la Constitution a changé, la Constitution belge a changé, mais en réaction, je dirais, à une politique européenne. Et il a été prévu dans la Constitution que les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie seraient passibles du tribunal correctionnel. Donc ça, disons que c'est les prémices pour mettre les choses à plat. Et qu'est-ce qui était plaidé par la défense? Il était plaidé que, on était face à un délit de presse, on était face à un délit de presse soi-disant raciste, et donc certainement c'est le tribunal correctionnel qui était compétent, mais on accusait aussi ces deux personnes de délits négationnistes, et disait Maître Courtois, c'est du négationnisme, et le négationnisme c'est différent que le racisme, et donc il faudrait aller devant la cour d'assises. Alors, ça n'avait pas beaucoup de sens, il me semble, comme argument, parce que si toute cette affaire montait devant la cour d'assises, bah, devant la cour d'assises, ils n'avaient pas le droit de faire appel et donc ils perdaient un degré de juridiction. Mais bon, soit, ça mettons que ça aurait été leur problème. Et donc, il a fallu expliquer ou convaincre le juge que tant les délits de presse inspirés par le racisme que ceux inspirés par le négationnisme étaient susceptibles d'être de la compétence du tribunal correctionnel. Alors, il y avait deux sortes d'arguments qu'on pouvait invoquer pour la convaincre de cet élément. Le premier, c'est que dit la Constitution ? Elle dit, eh bien, le tribunal correctionnel est compétent pour les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie. Alors, ça veut dire quoi, inspirer ? Moi, il me semble que le négationnisme, manifestement, est inspiré par le racisme. Je ne vois pas pourquoi on serait négationniste s'il n'y a pas du racisme derrière. Et, sauf erreur de ma part, le négationnisme est né en 1945, quand il a fallu faire face aux crimes nazis. Donc ça, c'est une première chose, qui était d'ailleurs corroborée par Maître Courtois lui-même, qui disait dans ses conclusions texto que tous les génocides, par essence et par définition, sont commis et sont niés au nom de la même idéologie, celle du racisme. Donc il le disait lui-même. Et le deuxième argument, c'est un argument juridique, parce que les travaux préparatoires, et c'est ce à quoi la juge s'est référée dans son jugement, dit très clairement que le tribunal correctionnel est compétent lorsqu'il y a des propos racistes ou xénophobes, y compris négationnistes, et y compris de la diffamation. Et donc, quand on se réfère non pas à la loi, mais au pourquoi de la loi, eh bien, on en arrive à la conclusion que toute cette affaire était bien de la compétence du tribunal correctionnel.
François Sanandello, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point ?
Pour dire que la jurisprudence était tout à fait constante, d'ailleurs. Cet argument est régulièrement soulevé et régulièrement les tribunaux le
alors,
rejettent.
Tout à fait. Alors, comment se fait-il ? Parce que, bon, pour nous, novices, on est quand même assez interpellés par le fait qu'un avocat qui est censé connaître la loi se permette de faire comme si cela n'existait pas.
Encore une fois, c'était, je crois, la provocation, le mode de défense de Maître Courtois, c'était de vraiment,
comme
toute évidence, d'argumenter pour choquer, pour polémiquer.
Comme l'a écrit Pierre Mertens dans Le Soir, c'est un avocat qui venait peut-être à peine d'avoir son diplôme. Bien, alors nous allons aborder la deuxième question de procédure, le deuxième argument de procédure abordé par la juge Lamine de Bex dans son jugement. C'est l'intérêt des parties civiles. Alors voilà, Maître Courtois a déclaré que les parties civiles devaient faire la preuve de leur intérêt, c'est-à-dire que puisqu'elles plaident pour antisémitisme, racisme et négationnisme, eh bien elles doivent donc prouver qu'elles ont un intérêt à la faire, c'est-à-dire qu'elles sont d'origine juive. Ce qui est évidemment tout à fait indécent et qui nous rappelle une triste époque où, bien entendu, si on ne pouvait pas prouver qu'on n'avait pas de parents ou de grands-parents juifs remontant aux deux générations précédentes, eh bien, on était considéré comme non-arien et donc passible des lois discriminatoires
et racistes.
De l'Allemagne nazie. Et donc, ça a été évidemment un choc. Il faut comprendre que pour des gens de nos générations qui, depuis 50 ans, on peut bien le dire, n'ont absolument pas été mis en cause dans leur citoyenneté leurs origines juives, où tous les citoyens belges d'origine juive de ce pays sont juifs d'une manière intime pour la plupart, et donc qu'on mette ça sur la place publique, c'est quand même quelque chose d'assez récent et d'assez douloureux. Je pense qu'il faut être sensible à ça, même si bien entendu d'autres communautés, comme il faut le rappeler toujours, ont également à souffrir. Mais en tout cas, voilà, on est interpellé sur nos origines juives, et alors non seulement de nous prononcer sur notre rapport au judaïsme, mais en plus ici on nous sommes de prouver que nous sommes d'origine juive. Et donc là, Christophe Gossens, la juge a été très clairement, tout à fait catégorique, et elle a même dit qu'il s'agit d'un argument indécent.
Oui, exactement. Mais avant de commenter le jugement sur ce point, je voudrais une toute petite observation, dire simplement que je ne voudrais pas trop accabler Maître Courtois sur cette antenne. Il a mené sa défense comme il pensait devoir la mener, et je crois qu'en réalité, cette affaire n'est pas l'affaire Courtois. Il faut se le rappeler, c'est l'affaire Assadil. Et donc, je ne voudrais pas qu'on se polarise ici.
Parce qu'il ne veut pas en faire une affaire Courtois, puisque là, récemment, et je pense que demain, ça sera même peut-être déjà dans la presse, il essaie de focaliser l'attention sur lui
chaque chose
à travers des menaces qui lui auraient été faites.
Hein. Chaque chose en son temps. En ce qui concerne mes courtois, moi personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire sur la manière dont
on va mener votre réserve professionnelle. Voilà. Et donc, à propos de l'intérêt des parties.
À propos de l'intérêt des parties, effectivement, la défense avait soulevé un argument que personnellement m'a beaucoup choqué, m'a beaucoup heurté, et je n'ai pas manqué de le dire au tribunal. Et non seulement il m'a heurté personnellement, mais il a aussi heurté évidemment toutes les parties civiles que je représente, qui se sont trouvées dans la position absolument indécente, il n'y a pas d'autre mot, de devoir se justifier sur le fait qu'elles avaient intérêt à intenter une action contre des gens qui tenaient des propos manifestement antisémites. Et à cet égard, le juge a à très juste titre souligné le caractère indécent de la manière dont Maître Courtois avait présenté son argument, et également a expliqué que c'était une preuve impossible à rapporter. Pourquoi ? En quoi consistait l'argument ? Il consistait à dire que même si certaines personnes ont un nom qui a l'air juif, je m'excuse de devoir rentrer là-dedans, mais c'était ça l'argument, même si certaines personnes ont un nom qui a l'air juif, elles devraient prouver non seulement que leur père est juif, mais également que leur mère est juive, puisque la judéité se transmet par la mère. Et donc, les parties civiles auraient dû apporter une preuve positive que leur mère était juive. Je trouvais cet argument absolument pornographique, c'est exactement le terme que j'ai utilisé en plaidoirie, et je n'ai pas manqué de le dire, mais en plus c'est une preuve impossible à rapporter, parce qu'évidemment, si l'on doit prouver que sa mère est juive, il faut prouver aussi que la propre mère de sa mère était également juive. Et jusqu'où va-t-on remonter ? On pourrait remonter jusqu'à Adam et Ève.
À cet égard ?
Non, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf peut-être que dans d'autres, soit par rapport à d'autres moyens qu'il soulevait, lorsqu'il parlait notamment du lobby juif, ben là, il intégrait des gens qui n'étaient pas du tout de notoriété juive, donc c'était la contradiction totale. Je crois que c'était vraiment le maître mot de cette plaidoirie, quoi. C'était dire une chose et puis son contraire.
Le troisième argument de procédure démonté par la juge Lamine de Bex concerne l'inconstitutionnalité de la loi sur le négationnisme. En fait, l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 12 juillet 1996 a donné une interprétation très très claire de la loi, puisque est négationniste tout ce qui vise à justifier, approuver, nier ou minimiser grossièrement la Shoah. Christophe Gossens, à ce propos.
Oui, soutenir que la loi sur le négationnisme est inconstitutionnelle, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat qui a été effectivement tranché par la Cour d'arbitrage le 12 juillet 1996. Et ce que la défense essayait de faire, c'était de reposer cette même question de nouveau devant le tribunal. Est-ce que la loi sur le négationnisme est conforme au principe de la liberté d'expression ? Est-ce que cette loi est conforme au principe constitutionnel de la légalité des peines ? Je n'en rentre pas dans le détail. Mais en réalité, la juge a répondu relativement simplement que c'était un débat qui avait déjà été tranché et qu'on n'allait pas le reposer à l'occasion de chaque procès sur le négationnisme. On n'allait pas à chaque fois se demander si cette loi était bien constitutionnelle ou non, puisque la Cour d'arbitrage, qui est la Cour suprême, qui est la Cour constitutionnelle de ce pays et qui est la seule à avoir autorité pour déclarer qu'une loi est constitutionnelle ou pas, cette Cour d'arbitrage avait clairement décidé que la loi sur le négationnisme est conforme à la Constitution. Mais cet arrêt de la Cour d'arbitrage, et là le tribunal n'a pas manqué de citer certains attendus de l'arrêt, cet arrêt de la Cour d'arbitrage est absolument remarquable parce qu'il invite à s'interroger sur la motivation profonde qu'il y a de sanctionner le négationnisme. Et donc je pense que c'est un arrêt dont il faudrait recommander la lecture à toute personne qui s'intéresse au négationnisme. Et il y a un attendu cité par le tribunal qui est particulièrement important, c'est que l'idéologie négationniste, d'après, et là je cite les termes de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, On ne peut défendre cette idéologie négationniste, il n'est guère concevable de la défendre sans avoir l'intention de réhabiliter une idéologie criminelle. Et ça, je trouve très important que la Cour d'arbitrage l'ait dit et l'ait expliqué. Si l'on sanctionne le négationnisme, ça n'est pas pour empêcher la recherche historique sur le génocide nazi, comme le faisait croire la défense, c'est précisément parce que ce qu'on veut empêcher, c'est qu'on réhabilite une idéologie criminelle.
Merci, Maître Goussens. Alors moi, je voudrais demander, poser une question à Khalil Zeghendi. Est-ce que, en effet, c'est le sens, disons, on lit beaucoup de textes sur Internet ou d'émissions de télévision qui circulent, notamment par l'intervention d'un site qui s'appelle Memory, memory.org, je crois, ou memory.com, qui suit les médias arabes. Et on remarque, bien entendu, notamment dans la presse, dans les médias iraniens, et dans, on a vu aussi des cours d'université donnés à l'université de Téhéran, et on remarque qu'effectivement, il y a une tendance à minimiser la Shoah, à considérer, enfin, c'était pas si grave, et puis d'ici mignon, mais enfin, il n'y avait pas tant de monde. Enfin, à ne pas vouloir reconnaître le statut de victime chez les juifs. Alors, ma question, j'ai une double question, Khalil Zeghendi. Une première question, si vous confirmez qu'effectivement ce phénomène est assez fréquent dans ce genre de médias et de presse, d'une part, et d'autre part aussi, bon, d'abord, donnez-moi la première question, on va aborder la
première. Il faut dire que moi, je ne suis pas très friand de ce genre de site, il m'arrive de temps en temps à surfer sur le site Asapil et sur d'autres sites, mais disons que je n'ai pas mené une étude ou une enquête approfondie à ce propos-là. Ce qu'il y a, c'est que il manque, au niveau du monde arabo-musulman, et même ici en Belgique et en Europe, pour ce qui est de la communauté arabo-musulmane, un certain nombre d'instruments que pour pouvoir lire l'histoire de l'antisémitisme ici en Europe, du nazisme qui s'est propagé donc entre les deux guerres
et qui a conduit un manque de connaissances.
Très grand manque de connaissances. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un effort qui est fait par les intellectuels arabo-musulmans ni par les cadres qui s'expriment au nom de ces communautés. Il y a des choses qui se font.
On n'investit pas assez dans l'éducation.
On n'investit pas assez dans l'éducation.
Et la question suivante, moi, ça concerne le statut de victime. En fait, le fait de nier le fait que la Shoah ait été aussi importante, c'est aussi une manière de ne pas vouloir reconnaître aux Juifs ce statut de victime. Et en vérité, les Juifs, ils n'aiment pas ce statut de victime. C'est pas quelque chose qu'ils revendiquent. Donc il y a comme ça, il y a comme un malaise, si vous voulez. D'ailleurs, même quand les gens sont revenus des camps, ils avaient presque honte de devoir dire d'où ils venaient. Et donc, si vous voulez, il y a ce problème de savoir pourquoi on considère qu'on n'a pas droit à ce statut de victime. En quoi est-ce que ça dérange quelque part la conscience musulmane que les Juifs seraient peut-être plus victimes qu'eux? Et alors, j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça, vous comprenez? Là, il y a un problème, c'est enviable le statut de victime? Non,
c'est
pourtant.
C'est un problème de concurrence par rapport à la victimisation. Aujourd'hui, le monde arabe est convaincu, pas seulement au niveau des dirigeants, mais au niveau même des populations, qu'il y a un grand complot qui s'est tissé de la part de l'Occident, et on englobe dans l'Occident aussi les sionistes, les juifs, etc., pour arriver à se convaincre soi-même que finalement, si on est arriéré, si on est dans la situation où on se trouve aujourd'hui, c'est parce qu'on est victime d'un immense complot qui vise à nous perpétuer dans l'arriération, dans l'ignorance, etc. Donc, ce genre de site et d'autres instruments qui sont cette propagande contribue justement à cette discrimination. Alors, si on est victime, aujourd'hui nous, on englobe dans les groupes et les personnes qui sont donc derrière ce complot-là, on englobe aussi les juifs, les francs-maçons, enfin voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu la concurrence de la victimisation.
Avant de passer à la pause musicale, François Sanangelo et Sylvie Rosenthal, vous voulez intervenir oui. rapidement alors.
Moi, ce sera très court, c'est simplement pour confirmer effectivement ce qu'avance Ralil Zaghendi. C'est un livre qui est extrêmement répandu dans le monde musulman. Eh bien, ce sont les protocoles des sages de Sion qui, justement, évoquent ce complot mondial.
Sylvie Rosenfeld.
Ce qui est important aussi de dire, c'est que le génocide juif les intéresse au niveau... c'est une arme de dire c'est pas vrai. Et comme dirait Ahmadinejad, le président iranien, ce qu'il dit, il faut l'entendre, même si c'était vrai, hein, en quoi les Arabes sont-ils responsables de ce qui nous est arrivé et pourquoi il a fallu qu'eux donnent leurs terres et pourquoi les Juifs on leur a pas donné puisque c'était soi-disant de la faute des Allemands pour qu'ils aillent en Allemagne. Mm-hmm. Il y a aussi tout ça.
Oui, bon, enfin, on va pas rentrer dans
bon, ce débat là maintenant c'est un moyen de guerre, cette histoire de génocide. C'est
un argument de guerre. Voilà. Alors, avant de poursuivre cette émission avec nos avocats et nos invités, je voudrais vous faire écouter une chanson de Julien Clerc qui raconte à quel point tout combat est nécessaire et utile. Voilà, c'est pourquoi nous, à Collectif Dialogue et Partage, nous agissons.
À côté d'une chanson, j'allais les affaires. Je me disais des chimias, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile. À vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lutte perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante, à n'importe quel point de vue, je veux être utile. À vivre et à chanter. La, 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 c'est une chanson qui allait désarmer, me disait des chimias, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi servir une chanson si elle est désarmée?
Bien. Chers amis, voilà, nous reprenons les de notre émission, enfin votre écoute à vous et notre animation à nous, de l'émission Dialogue et Partage produite par le collectif Dialogue et Partage sur Radio Judaïca 90.2 FM. À mes côtés, Rally Zenghedi, fidèle animateur de cette émission et qui aujourd'hui est aussi un peu témoin puisqu'il a suivi comme nous le procès de l'affaire Assabil. Maître Gossens et Maître Feld, qui ont été les brillants défenseurs du Centre pour l'égalité des chances et du collectif Dialogue et Partage. San François San Angelo pour le Centre pour l'égalité des chances qui s'est constitué partie civile avec nous. Et témoin qui a suivi ces audiences et qui a une formation de juriste, Sylvie Rosenfeld. Alors, après avoir donc abordé les arguments de procédure dans son jugement, la juge Amine Devex a abordé des questions de fond et c'est maintenant ce que nous allons faire également. Le premier concerne la fameuse vidéo montrant David Levy, le ministre israélien des Affaires étrangères sous le gouvernement Netanyahou et qui n'a pas eu beaucoup de coups de libre dans sa politique d'ailleurs à cause de Netanyahou, et là mis en cause et mis en scène dans ses mimiques gesticulatoires à la manière de c'est Hitler, et c'est évidemment pas innocent parce qu'on sait quand même bien ce qu'Hitler veut dire pour la mémoire juive. Julie.
Oui, alors cette vidéo à proprement parler, elle montre effectivement une image de David Levy, une image d'Hitler et des images du génocide juif et des images de la guerre israélo-libanaise. Ça c'est très important à souligner parce qu'on a beaucoup parlé du conflit israélo-palestinien dans le cadre de ce dossier. Cette vidéo et les interventions de Levy visaient uniquement cette guerre Israël-Liban. Ça c'est une première chose et donc on voyait Levy et puis Hitler dans la même gestuelle et il y avait des mots qui étaient insérés entre chaque image 2 et image de la guerre israélo-libanaise et de la Shoah. Ces mots étaient même haine, plus tard même racisme, même histoire et puis même crime. Et la vidéo se terminait avec une grande étoile de David et puis après une croix gammée qui se divisait en quatre sur l'écran. Donc ça c'est pour vous donner une image de ce qu'était la vidéo.
Mais en fait ce que je veux savoir c'est en quoi cette vidéo tombe sur la loi du négationnisme puisque les gestionnaires du site se sont justifiés en disant mais c'est pas nous qui avons produit cette vidéo, elle était sur un autre site, nous n'avons fait que la relayer. Oui. Et donc comme si en la reproduisant, ils n'avaient aucune responsabilité.
Alors exactement, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il s'agissait d'un lien hypertexte qui amenait vers un autre site internet. Il suffisait de regarder le site et ce que le juge a fait pour se rendre compte que ce n'était absolument pas le cas, que cette vidéo était bien un document sur le site Assabil, qu'il suffisait de cliquer dessus pour voir le film. Et donc il n'y avait pas de responsabilité, comme on dit, du fournisseur de lien hypertexte dans le cadre de ce dossier. Mais alors pourquoi est-ce que la loi de 95 s'appliquait à cette vidéo? Et c'est ça qui est important, et je crois qu'à cet égard, c'est une très grande victoire qu'on a obtenue dans le cadre de ce dossier, c'est que la loi sur le négationnisme, en fait, vise, sanctionne le fait de nier, de minimiser, de justifier et d'approuver les crimes commis par le régime national-socialiste. Et dans cette vidéo, ben, parce que vous avez une comparaison, vous avez véritablement, d'un côté, le nazisme et de l'autre côté, l'État d'Israël qui est mis sur un pied d'égalité, donc véritablement comparé, et ce qu'on fait, c'est qu'on compare les victimes du nazisme et les victimes de cette guerre israélo-libanaise, alors que le nombre n'a bien évidemment rien à voir, et on compare deux guerres et deux sortes de victimes, des victimes qui sont mortes en raison de leur identité juive et parce qu'elles n'ont rien fait d'autre que naître juive, et d'autres victimes qui sont mortes dans le cadre d'un conflit politique qui est quand même une mesure tout à fait différente. Alors en mettant tous ces éléments sur un pied d'égalité, en disant même haine, même racisme, même histoire, même crime, en écrivant sur cette vidéo sionisme égale nazisme, vous avez vraiment une comparaison, mais c'est pas une comparaison, c'est une égalité entre l'un et entre l'autre. Et à cet égard, eh bien, on a bien une minimisation au sens de la loi de la Shoah, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les crimes qui ont été commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à l'égard des juifs peuvent être ramenés ou sont les mêmes que les crimes commis par le gouvernement israélien dans le cadre de la guerre Israël-Liban. Et à cet égard, évidemment, c'est minimisé. Et c'est là ce que je disais être une grande victoire, puisque dans la jurisprudence qu'on avait jusqu'à maintenant en ce qui concerne la loi sur le négationnisme, n'avait jamais été condamnée ou sanctionnée que des personnes qui niaient à proprement parler.
En fait, on peut dire qu'il y a même une double infraction, puisqu'il y a infraction à la loi sur l'incitation à la haine raciste et antisémite à l'égard des Juifs et du peuple israélien. Elle souligne à l'égard du peuple juif et israélien, dit-elle, et infraction, elle ne parle pas de gouvernement israélien ni de politique israélienne, il faut bien que nos auditeurs non juifs soient attentifs à ça, elle sanctionne la haine envers les gens qui forment le peuple juif ou bien le peuple israélien. Et la seconde infraction étant une infraction à la loi sur le négationnisme lui-même, comme vous venez d'expliquer. François Sanangelo, est-ce que les prévenus auraient pu se désolidariser de cette vidéo, par exemple en faisant un commentaire, la mettre avec un commentaire, une distance, un recul?
De toute façon, le seul commentaire qui était admissible, c'était un commentaire extrêmement critique vis-à-vis de ces vidéos et d'être justement pédagogique dans le sens de ce que Raïl Zeghendi a dit tout à l'heure, ça veut dire de démonter tous les mécanismes, tous les mobiles abjects qu'il y a derrière ces vidéos. Or, cela, il n'en a été strictement pas question.
Donc, en fait,
nous avons interpellé les gestionnaires du site et, in fine, ils ont ôté les vidéos et ils ont remplacé ces vidéos par quelque chose qui était du même ordre, où ils ne faisaient pas du tout amende honorable,
voilà. Alors,
et qui n'ont jamais fait, même à l'audience, on l'a rappelé tout à l'heure. Et donc dans ce cas-là, il n'y avait strictement aucunement moyen de se déresponsabiliser de ce qu'ils montraient.
D'ailleurs, leur argument, c'était de dire, c'est le Conseil des sages d'ailleurs qui décide ce qui va être mis sur le site et de se réfugier derrière ça. Mais pour continuer, je voulais redonner la parole à Julie sur le deuxième argument soulevé par la juge. Est-ce que concernant l'article justement la fin du peuple d'Israël? Dans cet article, qu'est-ce qu'il y avait de répréhensible et qui a alors motivé le jugement de la juge?
Donc, c'est un article qu'on appelait « La fin du peuple d'Israël », qui s'intitulait comme ça, dans lequel il y avait toute une série de propos tout à fait abjects, où les Juifs étaient décrits comme, et je cite, « mécréants, ennemis, corrompus, maudits, rebelles, ambitieux, sournois, égarés, indignes, désobéissants, transgresseurs, vils, lâches, consternants, porcs, chiens, etc. » et j'en passe, et qui conclut à la chose suivante, il disait le peuple juif doit être combattu par ses serviteurs et le peuple juif doit périr. Alors, ce que la défense disait à propos de ce texte, c'est que c'était une compilation de sourates coraniques et que si le tribunal sanctionnait ce texte, eh bien, ça veut dire qu'il sanctionnait le Coran et que donc ces personnes ne pouvaient plus exercer leur religion de manière tout à fait libre. Alors, le juge suivant ça, nos arguments et nos moyens invoqués, a dit, mais non, en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le Coran qui est interdit, c'est le choix que vous avez fait de certaines sourates qui, mises l'une à côté de l'autre, fait que le lecteur, quand il lit ce texte, ne peut qu'être influencé par ce qui y est dit. Et ça crée manifestement un sentiment de haine et de violence à l'égard du peuple juif.
Je voudrais à cet égard interroger Raïl Zeghendi. Est-ce que le Coran dit ces choses?
Non, le Coran, dans l'histoire des musulmans, aux premières lueurs de l'avènement de l'islam, il y a eu un certain nombre, on a parlé tout à l'heure de concurrence, de victimisation, mais il y a eu aussi, l'islam a dû batailler pour faire sa place parmi les autres religions, et il y a eu un certain nombre de conflits qui sont intervenus entre musulmans et chrétiens, entre musulmans et juifs, les croisades par la suite, etc. Et donc, si on place cela dans la contextualisation de cette époque-là, on peut comprendre qu'il y a eu un certain nombre de dérapages, mais il faut les placer dans leur contexte. Ceci dit, il n'y a pas de verset, à ma connaissance, dans le Coran, à proprement parler, sauf si on cherche dans un certain nombre de citations apportées par un certain nombre de théologiens qui
ne sont pas le texte propre
lui-même. Et je trouve que les musulmans doivent absolument dénoncer l'amalgame qui est fait par Sheikh Bassam et consorts par rapport au Coran, lorsqu'il dit que on a compilé les versets du Coran qui traite les juifs, qui traite les juifs comme étant des personnes veules, des lâches, des sages, etc. Donc les musulmans sont interpellés parce que c'est eux aussi qui sont quelque part agressés, ceci au moment où dans notre société le racisme, l'antisémitisme et d'autres mots gangrènent donc notre cohabitation. Alors, dernière chose à dire par rapport à cela, c'est que je trouve que les intellectuels, les cadres, les politiques d'origine arabo-musulmane auraient dû aussi, il y a bien longtemps, s'intéresser à cette mouvance, à ces sites qui prêchent la haine, etc., et ne pas attendre aujourd'hui que ce soit
la justice qui s'en occupe.
La justice s'en occupe.
Sylvie Rosenfeld, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que les prévenus ont invoqué qu'il s'agissait des sourates du Coran, et ils ont invoqué, en se basant sur les sourates du Coran, leur liberté de culte. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Khalil, je regrette, il suffit de prendre la sourate de la table et lire toutes les choses, elles y sont. Alors, c'est clair que...
J'ai compris l'argument, mais maintenant, je voudrais donner un exemple. Actuellement, en Turquie, le Conseil des femmes musulmanes s'est réuni, présidé par une dame dont le nom m'échappe présentement, et qui est chargée de nettoyer le Coran de toutes les allusions, de toutes les incitations à la violence contre les femmes. Et précisément dit dans sa mission que toutes ces violences et ces ordres de soumission de la femme et d'esclavagisme de la femme ne sont pas dans le Coran, mais en fait font partie de la tradition et ont été intégrés au Coran. Donc on voit bien que le Coran peut s'adapter. Autre exemple, dans le cas iranien, je vais faire vite parce que je voudrais quand même qu'on aborde le dernier point du jugement avec nos invités. En Iran, lorsque Khomeini a accédé au pouvoir, la politique démographique qui jusqu'elle a été soumise au contrôle des naissances est revenue une politique de natalité libérée. Bien, après 3 ans, évidemment, on a constaté qu'on avait une démographie forte et on est revenu. Oui, on était évidemment pas revenu en fait. On avait rétabli, soi-disant, l'injonction coranique de se multiplier. Et puis finalement, on a considéré que cette injonction, ils n'avaient plus la respecter parce que bien sûr, dans les faits, économiquement, ce n'était pas réaliste, ce n'était pas tenable pour l'État de gérer des familles, aussi une population avec des familles aussi nombreuses. Aujourd'hui, on en est à 2,3 enfants par famille iranienne. Cet exemple est cité dans le livre de Firouzeh Nahavandi, du développement à la globalisation. Et donc, on voit bien que le Coran peut, dans certains cas, s'adapter. Il l'a fait en Iran pour la politique de natalité et il le fait il le fait actuellement en Turquie dans l'attitude envers les femmes. Et nul doute qu'il va devoir le faire aussi dans l'attitude envers les juifs. Maître Gossens, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose. Comme l'a très bien dit Khalil Seghendi, en faisant croire que le texte « La fin du peuple d'Israël » était quasiment tel quel issu du Coran, je pense que les prévenus ont insulté tous les musulmans sincères en même temps qu'ils ont insulté tous les juifs. Il est évident que ce n'est pas le Coran qui est antisémite. Ce sont les prévenus qui sont antisémites. Je crois qu'il faut être clair, il faut le dire très clairement. Au demeurant, et le juge l'a très bien relevé, le texte comprend non seulement une compilation de sourates coraniques, mais aussi une interprétation personnelle de l'auteur de ce texte, qui est en réalité un véritable appel à l'extermination. C'est un texte tout à fait abject.
Merci, Maître Gossens. François Sanangelo, moi j'aimerais aborder avec vous en fait la dernière question de fond que le jugement aborde avant de faire le dernier tour de table, parce que voilà, la fin de l'émission approche. Et cette question de fond concerne le forum, puisqu'en l'occurrence, le forum du site Assabil contient des messages évidemment très punissables par la loi pour leur incitation à
la haine raciste, antisémite, et il se réfugie derrière toujours ce conseil de sages, dont lui-même, un des deux accusés d'ailleurs, faisait partie, ce qui a amené la juge à le condamner et à ne pas retenir l'argument qu'un conseil des sages l'avait décidé, comme si la juge avait à respecter le conseil des sages représenté par Cheikh Bassam, dont on vous a dit tout à l'heure le rôle qu'il avait joué dans l'assassinat du commandant Massoud, qui était quand même un combattant pour la paix. François Sanangelo.
Oui, je crois que, bon, au-delà du conseil de sages, il y a aussi le fait que, comme tout forum qui se respecte, a d'abord des règles de déontologie, a une charte, a des modérateurs, et la présidente a constaté qu'en fait, ils n'ont pas du tout joué le rôle de modérateur, qu'au contraire, via des pseudonymes, ils intervenaient en qualité d'intervenant sur ce forum, et peut-être pas forcément les moins modérés. Et donc, c'est ceci qui a été mis en épingle, qu'ils violaient leurs propres règles. Et je crois, parce qu'il nous reste peu de temps, que donc dans le cadre du cyber hate que le centre et d'autres partenaires ont mis en place, un des rôles, lorsque le public donc nous envoie donc des messages concernant donc des toutes sortes de mentions qui pourraient tomber sous le coup de la loi, eh bien c'est d'interpeller justement ces modérateurs du site en disant faites jouer votre rôle, ôtez immédiatement tous ces éléments, n'attendez pas que nous intervenions ou que la justice intervienne. Et je crois donc que c'est cela notamment que la présidente a fustigé, c'est le fait qu'ils n'ont pas du tout joué le rôle modérateur, qu'au contraire, ils ajoutaient, si on peut dire, de l'huile sur le feu. Et je crois que bon, dans ce sens-là, vraiment, la magistrate
Est-ce qu'on peut espérer qu'une législation en matière de... Parce que la liberté de tout dire, on comprend bien dans ces cas-là que c'est surtout la liberté de dire la haine et de déverser sa bile, son fiel. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'une loi interdise, tout en protégeant évidemment la liberté en même temps de s'exprimer, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que Internet donne l'occasion à chaque internaute d'être un journaliste. Or on sait bien qu'un journaliste dans son journal, dans ses médias en tout cas, ne va pas dire des choses qu'il ne peut pas prouver ou bien qui l'amènerait à s'exposer à une répression par la justice. Alors comment, puisqu'ici on est dans un cas où la parole est libérée, que chacun se croit un journaliste sur Internet, est-ce qu'on peut espérer qu'une législation puisse être mise en place? Je vais peut-être demander aux juristes de répondre à ça et en même temps de donner la conclusion de cette émission. Est-ce qu'on peut espérer que cette parole, que ces heures ou ce qui fait la naissance d'Internet et qui a donné lieu évidemment à ce foisonnement, cet éclatement et qui en même temps permet un accès formidable à n'importe quelle personne qui habite de l'autre côté du monde, à un réseau de relations, à une série d'informations extrêmement importantes, on peut préparer un bouquin en restant dans son lit. Est-ce qu'on peut espérer tout de même qu'à côté de cet avantage, on est quand même...
Moi je veux simplement, pour introduire ce dernier thème, rappeler donc le titre donc du communiqué de presse commun, et je crois qu'il faut tout de même le rappeler, notre profession n'est pas d'être les censeurs, la liberté d'expression, la liberté de culte doit vraiment être maintenue, mais elle n'est pas absolue, et donc ce qu'il faut, c'est la responsabilité. Et ça, je crois que c'est ça une des leçons du jugement.
Alors voilà, moi je voudrais juste dire deux petites choses. À propos des sourates du Coran, ce qui est important, c'est que le juge a condamné l'instrumentalisation du Coran à des fins politiques. Alors on ne peut pas se cacher derrière le Coran et dire c'est dans mon Coran, j'ai le droit de le dire.
On est
à partir du moment où ça heurte, en l'occurrence, le peuple juif, et bon, je laisse tomber toutes mes remarques sur les sourates que je connais par cœur et qui existent. C'est clair.
On fera une autre émission avec
ça. C'est clair qu'on peut avancer dans tout ça.
La deuxième chose dont vous vouliez parler.
Ils sont très jolies. On peut prendre les jolies sourates et laisser les vilaines. Bon, mais la deuxième chose qui m'a touchée dans ce jugement, c'est ce qui a trait à la stigmatisation du gouvernement d'Israël et du pays d'Israël et des Israéliens, de dire que c'est vraiment des salauds intégrales et l'antisionisme qui est permis. Eh bien, avec ce jugement, on voit que si ça devient tellement excessif est tellement haineux que ça dépasse les limites de l'antisionisme et ça devient de l'antisémitisme. Et ça, c'est vraiment une grande victoire parce que tout le monde se retranche derrière l'antisionisme.
Merci Sylvie. Maître Feld.
Oui.
Moi, pour conclure, je voudrais simplement rebondir sur ce qu'a dit M. Santangelo. C'est au sujet de la liberté d'expression parce que c'est ça qui a été invoqué comme argument principal dans la défense. Alors la liberté d'expression, on sait tous que c'est une liberté fondamentale à notre démocratie. Ceci dit, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, il y a une obligation faite à tous les États européens, et quand je dis obligation, je pèse mes mots parce que c'est en vertu de lois internationales, qui oblige les États à interdire par des lois tout appel à la haine raciale ou à la haine religieuse. Et effectivement, c'est une limite à la liberté d'expression, mais je crois que cette limite, ce rempart, est absolument fondamentale si on veut préserver la démocratie.
Merci Julie Feld. Maître Gossens.
Oui, merci. En conclusion, deux choses. La première, c'est que les prévenus ont annoncé qu'ils allaient faire appel, et donc le combat continue. La deuxième, c'est qu'en sortant de l'audience, ils ont dit le lobby juif a encore frappé, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Et donc, poursuivons nos efforts.
Dans ma position, je ne peux que réitérer mon appel à la conscience des musulmans de Belgique de se démarquer de ce genre d'individus qui portent un tort extraordinaire à la convivialité et au dialogue, et de les isoler au maximum pour que nous puissions quand même vivre ici dans ces sociétés démocratiques dans l'harmonie.
Voilà, je voudrais remercier tous nos invités d'avoir participé à cette émission, notamment François-Hans Santangelo du Centre pour l'égalité des chances, Sylvie Rosenfeld qui est juriste, Maître Feld et Maître Gossens qui ont été les ardents et brillants défenseurs de notre cause, Khalil Zengendi qui est membre du collectif Dialogue et Partage pour son courage, et je voudrais terminer avec une dédicace que le collectif Dialogue et Partage souhaite lui faire. Voilà, amen. Bravo à Christophe et pour son talent et sa ténacité ainsi qu'à Julie, et bravo à Khalil pour son courage bien réel et exemplaire lorsqu'enfin se produira une fracture massive, irrémédiable et sans doute violente entre islamistes et tenants d'un islam ouvert. Khalil apparaîtra comme l'un des précurseurs de cette évolution en Belgique. Voilà, merci à tous et merci à Michel, à la technique. Vous étiez à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage. À la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, le 29 juin, avec Khalil, Maurice Reynolds et moi-même. Voilà. Bonsoir à tous.